Michel Gras, vous habitez en Italie depuis plusieurs années, vous êtes passionné par la Méditerranée. Pourquoi toutes ces mobilités entre France, Italie, la mer et certainement d'autres mobilités?
Il y a un point commun entre tous ces aspects, puisque effectivement j'ai été mobile dans ma vie du Languedoc à Paris, puis de Paris à Rome. Et je suis allé du Languedoc à Paris pour aller à Rome, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas aller directement du Languedoc à Rome, en tout cas dans le cadre des cursus universitaires. Et puis, j'ai travaillé sur la Méditerranée, sur les mobilités en Méditerranée. Et donc, de ce côté-là, il y a une continuité. Et il y en a une autre dans le fait que j'ai eu une carrière tronçonnée avec des segments, qui ont été des segments de recherche et d'enseignement universitaire, et des segments d'administration de la recherche. Et donc j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est une chance, d'avoir des périodes de 7, 8, 10 ans et des relances et des remises en question permanentes de ce que je faisais dans une continuité générale qui est l'histoire, l'archéologie de la Méditerranée sous tous ses aspects, justement recherche, enseignement, administration.
Pourquoi la Méditerranée? Pourquoi la Grèce antique? Pourquoi ces sujets aussi pointus? Je cite certains titres de vos ouvrages, Trafic tyrrhénien archaïque, ou bien encore l'univers phénicien, la Méditerranée archaïque, et enfin votre dernier ouvrage paru en 2004, Mégara Iblaea.
Mais pour moi, ça vient parce que d'une part, je suis né à 10 km de la Méditerranée, que dans mes études universitaires à Montpellier, j'ai été fasciné par des séminaires de recherche où mes maîtres essayaient de comprendre comment les Étrusques étaient venus ou avaient fréquenté le midi de la France, comment tout cela s'était croisé avec des parcours de Grecs qui étaient venus de Grèce vers l'Italie, la Sicile, le midi de la France, Marseille, comment des Phéniciens aussi étaient allés de Phénicie, c'est-à-dire du Proche-Orient à Carthage. Et donc je suis entré là tout naturellement dans un contexte qui était un contexte d'essayer de comprendre comment, avant que Rome domine l'ensemble de ce qu'on appelle le Mare Nostrum, politiquement, économiquement, comment il y avait eu une phase multiculturelle de la Méditerranée, de grands échanges. Et je ne sais pas si on y reviendra, mais curieusement, cette perspective pré-romaine de la Méditerranée, elle est étonnamment moderne aujourd'hui, avec ce qui se passe de nos jours.
Alors justement, je suis très intéressée que vous en parliez parce que souvent, vous faites des articles sur le commerce. Et notamment, il y a un titre d'article qui est « Regarder vers le passé pour aller vers le futur ». Donc j'imagine que ces études-là ont aussi quelque chose à nous dire pour aujourd'hui.
Tout à fait, parce que avant que Rome ne prenne le contrôle de la Méditerranée pour plusieurs siècles, la Méditerranée était formée effectivement de populations riveraines qui étaient à la fois sédentaires à l'intérieur, des bergers, des pasteurs, et qui étaient également très mobiles avec des populations de marins, de commerçants qui se déplaçaient, et dans un contexte très multiculturel. Et donc, des Grecs, des Étrusques, des Phéniciens, mais aussi des Sardes, des Ligures, des Sicules, se rencontrent, ont des expériences de vie en commun, ont ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des mariages mixtes, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et donc, c'est un moment où la Méditerranée est effervescente, où les Grecs arrivent de Grèce sur les côtes d'Italie du Sud et de Sicile et se mettent à fonder, à créer les premières grandes villes qui existent en Occident. L'Occident ne connaissait pas les grandes villes. Comment, sur un espace donné, on crée un espace urbain? Comment on commence à faire la différence entre des espaces publics, des espaces privés, entre des rues, des îlots? Comment on organise ce qui va devenir un cadre de vie urbain? Alors tout ça a des antécédents orientaux, l'Égypte, le Proche-Orient avait connu des expériences dans le passé, mais dans notre Occident, c'est à ce moment-là que tout ça se passe. Et en même temps, ces populations, elles se fréquentent, elles font émerger effectivement des communautés qui ont un peu de grec. Et c'est très intéressant de vivre ça aujourd'hui. Vous voyez, je pense souvent, quand nous entendons, vous et moi, à la télévision, parler de Lampedusa, qui aujourd'hui paraît un endroit complètement périphérique, mais qui en fait est central dans la vie de la Méditerranée d'aujourd'hui. Eh bien, Lampedusa a été central dans la Méditerranée de cette époque-là. Parce que les liens entre la Tunisie actuelle, c'est-à-dire le domaine de Carthage à l'époque, et puis la Sicile, de Syracuse, etc., étaient des liens, je dirais, quotidiens. Et donc, des Grecs vivaient en Tunisie, comme en Sicile, comme à Marseille. Après, l'histoire a organisé les choses différemment. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle version, historique d'un fonctionnement d'un grand milieu géographique et culturel qui est la Méditerranée.
Et est-ce que justement l'histoire peut nous donner des réponses à ce qui se passe aujourd'hui?
L'histoire, elle donne des messages en ce sens qu'elle relativise par exemple les conflits, qu'elle sait que les hommes essaient toujours de poser les mêmes questions et c'est toujours d'avoir les mêmes réponses et qu'un certain nombre de paramètres et de données contribuent à créer des situations conflictuelles dans des moments qui peuvent être vécus comme des moments de déclin et de repli, mais aussi comme des moments de croissance et comme des moments de mutation. Et toutes les mutations, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans la vie politique internationale ou économique internationale, les moments de mutation sont toujours des moments difficiles à gérer, qui peuvent devenir des moments de crise, qu'il faut savoir surmonter. Et donc, d'une certaine manière, ça donne de la distance. Mais dire que ça donne de la distance, ça ne dit pas que ça donne de l'indifférence vis-à-vis de ce que l'on voit autour de nous. Le travail de l'historien, il n'a de signification que s'il donne un éclairage, que s'il contribue à remettre en perspective un certain nombre de choses. Il ne donne pas des solutions simples, il ne donne pas des recettes, parce que si c'était comme ça, ça se saurait. Mais il donne des éclairages, et je suis souvent surpris, même parfois, quand on entend ou qu'on lit dans la presse certains commentaires, parce que nos contemporains, de temps en temps, ont perdu certains messages de l'histoire, et ils se posent des problèmes auxquels eux-mêmes, spontanément, pourraient donner des réponses, s'ils avaient en tête un certain nombre d'éléments. Notre travail, c'est quand même de remettre sur le sommet de l'océan du savoir, de remettre des concepts, de les faire réémerger. Platon ou Aristote savaient des choses sur la Méditerranée que l'on trouve dans leur œuvre. Par exemple, quand Platon décrit ce qui est pour lui la ville idéale, nous savons aujourd'hui qu'il a en tête des tas d'expériences de 2 ou 3 siècles antérieurs à lui, qui se passait en Sicile ou qui se passait en Italie du Sud, mais qui connaissait beaucoup plus en détail que ce qu'il a dit dans son œuvre. Donc l'historien, il essaie de faire ce travail, dont on peut dire rapidement que c'est un travail de mémoire, mais la formule est un peu sèche.
J'aimerais que vous nous disiez un peu comment est-ce que vous êtes arrivé à Rome en 2003.
Oui, en 1985, quand j'avais quitté Rome pour la première fois, je pensais que j'avais tourné la page, j'étais resté 12 ans dans cette ville, j'avais eu beaucoup de joie, mais je pensais que c'était une phase de ma carrière et que maintenant il fallait s'occuper de la phase suivante. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que dans les années suivantes, mon retour à Paris, j'ai été harcelé au bon sens du terme par de nombreux collègues et amis italiens qui m'invitaient à revenir en Italie pour des conférences, pour des séminaires, pour des colloques, pour des programmes d'enjeux. Et ça, je ne l'avais pas du tout programmé, je ne l'avais pas du tout prévu. Et alors, cette espèce d'insistance à me faire revenir, et souvent j'ai accepté, dans la mesure des possibilités de revenir, c'est ça finalement qui a créé ce lien fort, parce que j'ai vu quelque chose qui m'a touché, sur le plan sentimental bien sûr, mais qui m'a surpris, que je n'avais pas du tout programmé ni prévu. Et donc, j'ai instauré un rapport un peu de confiance avec l'Italie qui s'est accentuée. Donc en 2003, je suis revenu, mais en 2003, bien entendu, je savais que je faisais les 8 dernières années de ma carrière professionnelle. Je voulais essayer d'apporter quelque chose à l'École française de Rome, qui est une institution qui a changé ma vie, parce que si je n'étais pas passé par elle, certainement mon rapport à l'Italie aurait été complètement différent. Et donc, quand une institution vous a beaucoup donné, on essaie, si on peut, de lui rendre un petit peu de ce qu'elle vous a apporté.
Pour terminer, Michel Gras, qu'est-ce que vous aimeriez que nous connaissions, nous qui sommes quand même pas aussi cultivés que vous, aussi connaisseurs que vous des Étrusques, des échanges dans la Méditerranée? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous aimeriez dire, là, creuser ce point, c'est important?
Je choisis un point qui va peut-être vous surprendre, qui est que je voudrais que nos auditeurs aient conscience que sur tous les rivages de la Méditerranée se jouent aujourd'hui des batailles qui sont politiques, économiques, militaires, malheureusement parfois, mais qu'il y a aussi une grande bataille intellectuelle et culturelle à faire sur les littoraux de la Méditerranée. Les littoraux de la Méditerranée sont des espaces fragiles. Ils ont été au centre de la vie de la Méditerranée, non seulement par les grands ports, mais par les estuaires des fleuves qui font communiquer la mer avec l'intérieur. Ils ont été maltraités souvent parce que nos prédécesseurs n'avaient pas d'autre solution que d'en faire des lieux de l'industrialisation lourde de la Méditerranée. Alors ces espaces-là, il faut que les populations qui vivent autour de la Méditerranée aient conscience que ce sont des espaces essentiels pour la vie sociale, intellectuelle, culturelle, mais la vie de tous les jours de la Méditerranée. Si on perd les littoraux, on perdra une dimension fondamentale de la Méditerranée. Donc moi, je suis un grand militant de la recherche sur les littoraux de la Méditerranée. Ce sont des espaces de rencontre entre les populations. Et ce sont donc des lieux que l'on doit absolument protéger, valoriser, parce qu'ils permettront de garder à la Méditerranée cette dimension fondamentale dans tout l'Occident, mais dans le monde entier. C'est l'un des endroits où les hommes et les femmes se sont rencontrés. Alors, il y a eu les clivages nord-sud que l'on connaît encore aujourd'hui. Mais je vois tout ça de manière très secondaire, moi, par rapport à une vie quotidienne où les populations qui sont installées sur les littoraux de la Méditerranée vivent bien, vivent sainement, intégrant les éléments du patrimoine. Je suis un archéologue et donc je n'oublie pas les monuments, les sites, mais protéger les grands sites archéologiques n'a de sens que si on protège aussi les paysages qui les entourent et que les populations qui y vivent y soient bien.